voix nue. Cette semaine, Dany Le Gras rencontre Jacques Berès. Ce soir, soigner à tout prix.
Bonsoir Jacques Berès.
Bonsoir.
Jacques Berès, au fil de nos conversations cette semaine, nous avons parlé de votre enfance et de ce sentiment d'abandon qui vous a un peu façonné, de vos années d'étudiant d'abord en Cagne, ensuite en médecine, de ces grands chambardements qu'a été mai 68 ainsi que du printemps de Prague. Et bien sûr, nous avons parlé de vos missions de guerre. Vous dites, Jacques Berès, qu'il est danger est rarement là où on le croit. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Écoutez, c'est pas simple. Petite remarque préalable, le mot danger est un ovni dans la langue française. Je me suis rendu compte de ça tout récemment, j'ai cherché l'étymologie en français du mot danger. C'est incroyable. Vous allez dans le gros littré, c'est incroyable. Ils ne savent à peu près rien de l'étymologie du mot danger. C'est frappant quand même. C'est un mot hyper utile. Je pense que chez les hommes préhistoriques, c'est à peu près le sixième mot qu'il faut apprendre. Papa, maman, éventuellement, je ne sais pas où en étaient les rapports familiaux, éventuellement papa, maman, manger, boire, faire l'amour, on parlait pas, on le faisait, on empoignait sa partenaire et bon, donc ça on évacue, je t'aime, bon ça veut probablement rien dire à l'époque, mais forcément danger, c'est le cinquième ou sixième mot dont une peuplade a besoin, pour dire là la grosse bête, danger, attention, je pense que même chez les singes, il y a un cri spécial qui veut dire danger. Donc il y a forcément une onomatopée ou un cri qui veut dire danger depuis absolument la nuit des temps, qui veut dire ça. Et en français, ce mot danger, on ne sait pas ce que c'est et d'où ça vient. C'est extraordinaire. Il y en a des tirades dans Littré. Rien. C'est incroyable. Peut-être, possiblement, il n'est pas exclu que ça vienne du latin dominarium. Ah oui, d'accord, dominarium, il y a un D, effectivement, il y a un D au début. Et puis le reste, alors, ça me rappelle les étymologies de Raymond DeVos, que je crois que vous allez apprécier, c'est très court. Raymond DeVos, dans ses spectacles, expliquait « cheval vient du grec hippos ». Alors les gens disaient « hein ?»« Hip a donné che et pos a donné val ». Fin de la leçon d'étymologie, magnifique. Hip a donné che et pos a donné val. D'accord. Eh ben, danger, c'est presque ça. Alors, ça vient de dominarium. Enfin, je vous passe des trucs. Et des... Enfin, c'est incroyable. Ça serait passé dongier à un maman vieux français, mais en même temps, il est attesté en l'an 1060, je crois, qu'il y a une femme en bas latin qui s'appelle Dangerosa, qui est quand même plus près de danger que dominarium, mais ça ne les intéresse pas comme piste. Ce qui est très amusant comme piste, c'est que ça vient peut-être aussi du mot dame. Dame comme dame, comme dame plutôt germain, enfin saxon, etc. Mais on ne sait pas. C'est fou quand même, voilà. Donc danger, voilà. Alors, à part ça, le danger, oui, je crois vraiment que souvent, enfin presque toujours, c'est pas là où on le croit que on est le plus en danger. Je veux dire qu'une bombe ou des grosses bombes tombent à 500 mètres, ça fait du bruit, on peut sentir le souffle, les vitres peuvent même être brisées, mais c'est très triste pour les gens qui sont à 500 mètres et qui sont sous la bombe, mais voilà, à 500 mètres, il ne se passe rien de spécial. Et ça, c'est très spectaculaire, et les gens ont très peur de ça. C'est pas ça, le danger. Alors, pourquoi je me permets de dire ça? Parce que je l'ai beaucoup fréquenté, parce que j'ai été fusillé une fois, parce que j'ai réfléchi beaucoup sur le danger, surtout, avec des réflexions simplettes, mais incontournables. Le danger est surtout lié à la peur du danger. Or, tout le monde est d'accord que la peur n'écarte pas le danger. La peur peut vous rendre prudent, mais ça n'écarte pas le danger. Et si la peur ou l'appréhension avant de rencontrer le danger vous fait prendre trop de précautions, ces précautions peuvent vous mettre plus en danger, etc. Bon. La peur n'écarte pas le danger, ça c'est fondamental. Et on me pose très souvent la question, mais vous n'avez pas peur avec tout ce que vous faites, ce que vous avez fait, etc.
Et j'allais justement vous poser cette question, si vous avez réussi à l'apprivoiser, cette peur. Puisqu'elle était omniprésente, elle est omniprésente dans ces missions, je suppose. En tout cas, la mort et les dangers sont omniprésents.
Oui, si on veut. Enfin, c'est surtout le danger pour les autres et la mort des autres. Jusqu'à preuve du contraire, je ne suis pas encore mort. Moi, j'ai toujours eu peur d'avoir peur. Ça, clairement, ma grande peur, c'est la peur d'avoir peur. J'ai vu des gens considérés comme courageux, complètement craqués. Devenir des espèces de tas sans réaction. J'ai compris de là que le courage de la veille ne sert pas le lendemain. Ça aussi, c'est un dicton, mais il est très vrai. Des gens ont été courageux longtemps, et puis tout d'un coup, ils sont fatigués, ou enfin bon, ils s'effondrent. Le courage de la veille ne sert pas le lendemain. Surtout de la peur. En fait, c'est la peur de mourir. Or, là, j'ai une attitude très, très simple et qui me satisfait complètement et qui me protège très bien. C'est le raisonnement d'Épicure, ce philosophe grec dont tout le monde pense que il a dit qu'il fallait cueillir le plaisir au jour le jour et que voilà, les Latins ont traduit carpe diem et on pense que c'est Épicure. C'est aussi Épicure, mais l'œuvre d'Épicure nous est arrivée très fragmentée. On en a peut-être le dixième de l'œuvre d'Épicure ou le quart de l'œuvre d'Épicure et on ne sait pas tout ce qu'il a pu écrire entre. Il a écrit sur la nécessité de vivre sa vie comme ça, bon, mais il a aussi parlé de la mort d'une façon passionnante. C'est-à-dire, il dit des choses simples, il dit, mais la mort, c'est pas un problème, ça n'existe pas. Voilà, si je suis vivant, il n'y a pas la mort, et s'il y a la mort, je suis pas vivant. Donc, pourquoi on se fait toute un problème avec ça? C'est deux choses différentes. Quand ça se rencontre, évidemment, c'est fin de parcours. D'accord, fin de parcours. Mais tant qu'on n'a pas rencontré sa mort, on est vivant. Pourquoi y penser? Un jour, on la rencontrera d'une façon quelconque. Mais ce qui est tragique, c'est pas tellement la mort, ça va tous nous arriver, la mort. Alors, autant qu'elle soit le plus tard possible si on aime la vie, et moi je l'aime beaucoup, tant qu'elle soit le plus tard possible, qu'on profite, qu'on se fasse une belle vie avant de rencontrer sa mort. Mais c'est pas la peine d'y penser tellement. C'est une pensée très marquée par la religion, les religions, c'est-à-dire il faut vivre avec des critères qui vous permettront, après la mort, dans un autre monde dont personne n'a la moindre idée, d'avoir enfin les bénéfices des sacrifices que vous aurez consentis ici-bas. Ouh, d'accord les gars, vous m'oubliez, hein, moi, vous me laissez. Bon. C'est trop fort pour moi, ce genre de raisonnement. Moi, je suis Épicure. Je suis vivant, il n'y a pas la mort. Il y a la mort, je suis plus vivant. Bon, ben alors voilà, c'est fini, c'est terminé. Quand on a dit ça, ce qui est intolérable, c'est pas la mort, c'est la souffrance. Pourquoi je crois pas en Dieu du tout? C'est parce que s'il y avait un Dieu, je lui ferais un procès tout de suite. Tout de suite, pour la souffrance qu'il laisse dans le monde. Hein. C'est intolérable, cette souffrance. Même pas des guerres qui sont des souffrances épouvantables, horribles, avec les familles endeuillées, trouées, perdues, martyrisées, etc. Mais tous les enfants innocents qui se prennent des projectiles ou qui crèvent de famine, ou enfin, tout ce qui se passe dans le monde. Et voilà, et il y a un Dieu. À la fois, il est tout puissant et à la fois, il est tout bienveillance. Et ben voilà. Et comme ça, il y a de la souffrance qui déborde, qui va jusque dans les égouts, dans le monde entier. Et on a un Dieu tout-puissant et bienveillant. Qu'on m'explique, c'est trop fort pour moi. Fin de ma parenthèse d'athéisme. Voilà, danger, la peur, la mort.
Ouais. Mais comment vous gérez votre peur, justement, quand vous êtes en mission? Ou vous n'y pensez pas? Vous ne la ressentez pas?
Euh, Non, presque pas. Je vous dis, j'ai vraiment depuis toujours eu peur d'avoir peur. Ça fait 50 ans que ça dure, cette peur-là, d'avoir peur. Donc, j'ai presque pas eu peur. Non, je pense qu'il y a mieux à faire d'avoir peur. Vous savez, Sartre avait écrit une théorie phénoménologique des émotions, Souvenir de Cagne, hein, dans lequel il explique très bien, et tout le monde le sait, que la peur peut vous paralyser, peut vous donner des réactions complètement idiotes. Vous pouvez rester là, sidéré, stupéfait, en attendant que la catastrophe vous arrive dessus. Il y a mieux à faire, il y a à trouver le chemin de traverse, ou comment on peut s'adapter, etc.
Donc c'est peut-être l'action qui
Oui,
apprivoise la peur.
mais la réflexion aussi, hein. Au Kurdistan, j'étais dans une voiture avec mes amis Bernard Kouchner et Max Recamier. Un avion irakien, c'était au temps du général Barzani, un avion irakien nous survole en faisant des ronds. Le chauffeur dit, ah, il va nous bombarder. Il arrête la voiture au milieu de la route et il dit, sortez, sortez, on va être bombardé. Tout le monde est sorti, le garde du corps, le chauffeur, Max et Bernard Kouchner. Et moi, je suis resté dans la voiture en fumant ma cigarette. Ils n'avaient pas fermé les portières, c'était délicieux. Il y avait un courant d'air et c'était magnifique. Le bombardement a eu lieu. C'était tout autour. Moi, j'avais, le plus vite possible, calculé que, enfin, réfléchi que c'était au centre que j'avais le moins de risque d'être touché à l'époque. C'était pas du tout les visées laser. C'était un type qui ouvrait une trappe, comme dans la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire, il fait ça. Ça s'ouvre, il y a un chapelet de bombinettes qui va là où il peut, mais partout sauf au centre, ce serait vraiment simplement aux fêtes foraines, quand vous regardez les cibles, le centre du centre, c'est ce qu'il y a de moins touché, il y en a partout autour, mais le centre du centre, non. Et ben, quand c'est un avion qui, à l'époque, larguait des bombes comme ça, voilà, c'était tout dangereux autour, mais pas au centre. Donc moi, j'avais pris le moins de risque. Simplement, quand ils sont remontés dans la voiture, c'était la fonte des neiges. Les champs étaient gadous de pas possible. Ils sont remontés dans la voiture, convertis en statues d'argile. Mais vraiment, ça, bon. Et Bernard s'assoit à côté de moi. Je lui dis, attends, Bernard, moi je suis resté propre, s'il te plaît. Et ça l'a vexé comme un. Enfin voilà, il a. C'est là où il a dit, ce type est barge. Je lui ai dit, non, réfléchis un peu, tu t'aperçois. Voilà, ça l'a pas convaincu. Il n'a pas pu dire que j'avais tort, mais ça l'a pas convaincu. Il trouve que c'est pas une réaction normale de pas sauter quand on vous dit de sauter. Moi, je crois qu'il vaut mieux réfléchir avant de sauter hors de la voiture et rester là où on est. Ça m'est arrivé plusieurs fois, ce genre de truc. Pendant des années, on a entendu Berès, il est suicidaire. J'ai dit oui, sûrement, vous avez raison. Sauf que je me rate toujours, hein. Vous avez remarqué que. Et puis maintenant que que j'ai bientôt 80 ans, qu'est-ce que je me suis raté quand même comme suicide, hein? Alors il faudrait arrêter de dire ça. Alors après il y a eu le trompe-la-mort, les balles t'épargnent, les balles font le tour.
Est-ce qu'on peut dire que vous avez une bonne étoile?
Ah sûrement, sûrement pour des tas de raisons. Surtout parce que je suis né dans un milieu très privilégié, même si j'étais avec des parents absents. Au point de vue financier, j'ai eu des tas de facilités. Je veux dire, avec toutes les conneries que j'ai faites, si j'étais pas dans un milieu qui pouvait me rattraper, en demandant, en négociant, que je puisse continuer des études, j'aurais été chaudronnier. On m'aurait mis dans une voie parallèle. On m'aurait pas emmené jusqu'au bac. On m'aurait mis à faire de la chaudronnerie, qui est sûrement un beau métier, mais enfin, qui est, voilà. Oui, j'ai eu de la chance de ça. J'ai eu surtout une bonne étoile avec les femmes, surtout. Mais les femmes m'ont énormément apporté. Et malheureusement, je dois confesser que j'ai pas souvent été à la hauteur. Toujours ce problème d'abandon qui fait que j'étais convaincu que je méritais d'être abandonné, donc que je pouvais faire n'importe quoi. Puisque ça allait la contrarier, la vexer, l'irriter, l'énerver, et que, bon, elle allait me quitter, que voilà, ce serait un abandon de plus, mais c'était normal, logique. Mais sinon, j'ai le plus grand amour, respect, des femmes, et j'ai eu des relations extraordinaire avec un certain nombre de femmes merveilleuses. Je ne sais pas comment ça s'est fait. Parce que, a priori, j'ai pas beaucoup de chance. Hein. Ça ressemble vraiment au dialogue des bronzés. Hein. Toi et moi, on a un peu le même problème. Enfin, surtout toi. On peut pas miser tout sur notre physique. Mais sur un malentendu, ça peut marcher. Ben, j'ai eu beaucoup, beaucoup de malentendus qui ont marché, alors, beaucoup. Et ça, c'est merveilleux quand même. C'est ce que je veux dire. Alors, si on parle de la peur et de la mort, moi, il y a un truc qui m'a toujours accroché à la vie et qui m'a écarté la peur de la mort, c'est de faire l'amour. Faire l'amour beaucoup, à fond, en partant au septième ou en visant le huitième ciel pour au moins arriver au septième, c'est une vraie nique à la mort, je trouve. C'est un moment d'éternité à deux. On est complètement hors du temps, on est ouf, balancé, et voilà, on est hors du temps, dans l'éternité, et c'est merveilleux.
Jacques Béhès, votre engagement est allé bien au-delà de conflits, car vous avez fondé l'association Les Enfants du Canal en 2007, à la suite du mouvement des enfants de Don Quichotte au canal Saint-Martin. Il paraît que vous avez même entamé une grève de la faim, en réaction à l'épidémie de gastro qui sévissait dans les camps d'SDF.
Ah, c'est plus ou moins vrai, ça. Tout ça. Alors, j'ai pas fondé grand-chose, hein. Je ne crois pas que ce soit moi qui ai fondé les Enfants du Canal. Je suis président d'honneur des Enfants du Canal. Je suis cofondateur, évidemment, mais ça a été plutôt fondé par la famille Legrand, hein, et les Enfants de Don Quichotte, qui était un très beau mouvement. C'est Augustin Legrand et sa famille, c'est-à-dire Jean-Baptiste, Armel, leur mère, et même accessoirement Joseph, un des frères aussi, mais moins que les deux autres. Ça, c'est l'épisode Canal Saint-Martin. Il se trouve que j'ai été le médecin du camp depuis le début parce que j'étais venu voir le camp quand il avait... Le premier jour, on a parlé de ce camp à la radio. J'ai dit, c'est insensé ce truc, je vais aller voir. Je rencontre Augustin, on parle, on sympathise. Et en le quittant, je lui dis, alors, qu'est-ce que tu as envisagé pour l'aspect sanitaire du camp ? Il me dit, ah ben j'avais pas pensé, bon ben alors c'est toi. Ah ben d'accord, oui c'est moi le service sanitaire du camp. Donc j'ai fait pendant les d'octobre 2006 à mars 2007 je crois, où on a abandonné le camp, sous la pression de Borloo, qui était ministre du logement à l'époque, qui voulait plus du tout qu'on soit sur le camp, parce que le canal Saint-Martin, il y a des bateaux de touristes qui passent, et les touristes, il photographiait des tentes sur le... C'était pas bon pour le gouvernement, donc il voulait absolument qu'on quitte...
Cacher la misère.
Ouais, qu'on quitte le canal. On a négocié avec lui, il nous a trouvé un local et tout. Il nous a un peu roulé dans la farine aussi, mais bon. Et la grève de la faim que j'ai faite, c'était... Bon. Et c'était pas pour l'épidémie de gastro, parce que l'épidémie de gastro, je l'ai soignée. Bon, c'était pas très très grave. Ce qui a été grave sur le camp, j'ai eu deux morts par overdose. Mais ça, c'est les toxicos, hein. c'est pas la gastro. Les deux morts que j'ai eues, c'est l'overdose. L'épidémie de gastro, je l'ai soignée. C'était chaud, le camp, c'était chaud. J'ai appris des tas de choses sur le camp.
Par exemple ?
Par exemple, un truc extraordinaire. Extraordinaire. Si je peux vous raconter cette anecdote, elle m'avait beaucoup marqué. On avait dit qu'on interdisait les armes sur le camp, ce qui était mieux comme idée. Je me balade sur le camp, je vois un type qui a un couteau comme ça, de 30 cm. Je prends son couteau et je le balance dans le canal, dans l'eau. Et il me saute dessus pour me casser la gueule. Et heureusement, il y en a deux ou trois autres qui disent « Ah non, tu touches pas, c'est le médecin, tu le laisses celui-là. » Et qu'est-ce qu'il a répondu ? Il a répondu un truc formidable. Il a répondu « Oui ». Mais il m'a mal parlé. Or, j'avais pas dit un mot. J'avais pas ouvert la bouche. J'avais pris le couteau et lancé dans le canal. Et ça, c'était mal parlé. C'est drôle, non? Comme utilisation des mots. ça équivalait à lui parler mal, comme si je l'avais injurié ou bon, etc. C'est très intéressant le camp et le langage du camp. Vous savez comment ça se dit, mon pote, en vrai langage de la rue?
Non.
Ça se dit ma couille.
Vous avez appris ça aussi.
Oui, enfin bon, je m'y suis vite mis. Enfin, il y a des trucs à apprendre comme ça. Il y avait tout un peu sur le canal. Il y avait des SDF et puis il y avait des gens qui venaient voir et puis il y avait quelques barges complets, puis des gens qui voulaient faire du désordre et puis des braqueurs repentis. Il y avait.
Et cette grève de la faim que vous avez entamée?
Oh, c'était pour un problème administratif, c'était en opposition avec l'administration, c'était pas du tout pour c'était pas du tout pour la gastro. La gastro, j'y arrivais. La grève de la faim, ça inquiétait surtout ce très gentil acteur qui est mort récemment, Jean Rochefort, qui était très solidaire du camp du Canal Saint-Martin. Il est venu près, il venait tous les 2 jours, il venait nous voir tous les 2 jours. Et alors lui, ça l'inquiétait complètement. Il trouvait que j'avais plus l'âge de faire une grève de la faim. Il disait, mais il faut pas que tu fasses ça. Regarde, t'as des trous sous les yeux. Tu vas pas tenir le coup. Je lui dis, écoute.
Ça a duré combien de temps, Jacques?
17 jours.
Ah oui, tout de même.
Ouais, c'est pas très grave, 17 jours. Hein. C'était la deuxième grève de la faim. C'est drôle, j'en ai fait deux dans ma vie. Je sais même plus vraiment, il faudrait que je cherche. Je ne sais même plus quelle était la raison de la première.
Et vous êtes arrivé à vos fins? 17 jours après?
Je ne sais plus quel était mon premier motif de grève de la faim, mais je trouvais que c'était justifié aussi. Mais alors, ce qui est drôle, c'est que ça avait duré exactement aussi 17 jours. Donc,
C'est votre seuil de.
voilà, Berès, il décroche au 17e jour des grèves de la faim. Ce n'est pas du tout la zone dangereuse. Hein. La zone dangereuse, c'est après 30 jours. Hein. Et alors, ce qui est très drôle, c'est qu'on maigrit pas beaucoup.
Disons que vous êtes bien placé pour faire une grève de la faim, puisque vous connaissez tellement bien les fonctionnements du corps que vous pouvez vous permettre.
Pas tellement, pas tellement. J'ai appris sur le tas. Alors après, il y a eu des gens qui ont fait des grèves de la faim sur place, parce que moi, je sortais, je rentrais chez moi, je travaillais, je revenais, etc. J'ai dormi sur le camp à peine 15 jours. On apprend des trucs aussi, en dormant par terre. Sur le bitume, dans une tente. On apprend des trucs aussi, hein. On apprend qu'il fait pas chaud. On apprend que les bistrots, ils ouvrent qu'à 7 heures du matin. Qu'il faut avoir dans sa tente un thermos, si on a les moyens d'avoir acheté un thermos. Et dans le thermos, soit on met du café, soit on met du vin. C'est un choix. Mais qu'en tout cas, avant 7 heures du matin, si on se réveille parce que les voitures, les pots d'échappement, etc., à 7 heures, les cafés sont ouverts, mais ce qu'il y a de moins cher, c'est le ballon de rouge. Hein. Le café est beaucoup plus cher que le ballon de rouge. Tant que ce sera comme ça, enfin, ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai très bien compris l'alcoolisme hein, quand je dormais.
C'est pour se réchauffer surtout.
Ouais, c'est pour tenir le coup. Hein. Si j'avais dû dormir tout le temps comme ça, je serais sûrement devenu alcoolique. Enfin, probablement devenu alcoolique. Ça aussi, c'est un grand enseignement de modestie, j'ai appris surtout le respect des gens de la rue, des clodos. J'ai compris assez vite que le mythe du clochard qui avait choisi sa destinée en voulant être libre, en chantant des chansons, en ayant la bouteille sous le bras et le béret sur la tête, etc., c'est bidon. Les gens en souffrent beaucoup. Ça peut arriver à presque tout le monde. Ils regrettent beaucoup d'en être là, c'est très dur. Je crois que faire la manche, c'est très dur. Hein. J'ai pas essayé à maman, je voulais voir ce que ça faisait, mais c'était triché, quoi, c'était pas honnête. Je pouvais me poser mes fesses sur un trottoir et tendre la main, mais j'avais pas besoin de ça, donc ça voulait rien dire. J'ai appris d'autres choses. En ayant la garde d'un chien de sans-abri. Parce qu'un de mes sans-abri avait une formation à faire en charpente pour devenir charpentier et on ne pouvait pas le prendre avec son chien. Et il m'a confié son chien pour plusieurs mois pour faire cette formation. Et c'était une chienne adorable, extrêmement intelligente, très gentille, très douce, adorable. Et ce qui était drôle, c'est que, bon, elle avait pas besoin d'être en laisse, elle suivait. Ce qui était drôle, c'est qu'elle avait appris à aller dire bonjour à tous les types qui font la manche. On s'arrêtait devant tous les types qui font la manche, elle parlait au chien et moi je parlais, mais c'était, elle décidait qu'il fallait s'arrêter, dire bonjour. C'était une corporation, elle savait qu'on était de la corporation des gens qui sont sur le trottoir et qui font la manche. Et quand je la promenais, je barrais, voilà, c'était drôle.
Jacques Béhaize, il y a un poème de Victor Hugo qui est pour vous la parfaite définition de l'humanitaire. De quoi il s'agit ?
Oh, je ne sais pas si c'est la parfaite, mais j'ai cherché. Oui, j'ai cherché. On me pose souvent la question, mais humanitaire, humanitaire, ouais. C'est quoi ? Ça, c'est quand je râle contre la technocratisation, la prétendue professionnalisation de l'humanitaire. Et je trouve qu'il y a une belle image, une belle métaphore de l'humanitaire dans ce poème de Victor Hugo qui s'appelle « Après la bataille » et qui est « Mon père, ce héros au sourire si doux, suivi d'un seul hussard qui l'aimait entre tous pour sa grande bravoure et sa haute taille, parcourait à cheval le soir d'une bataille le champ couvert de morts sur qui tombait la nuit. Il lui sembla, dans l'ombre, entendre un faible bruit. C'était un Espagnol de l'armée en déroute qui se traînait sanglant sur le bord de la route et qui criait « à boire par pitié !» Mon père, ému, tendit à son hussard fidèle une gourde de robe qui pendait à sa selle et lui dit « Tiens, donne à boire à ce pauvre blessé. » À ce moment, l'homme, une espèce de mort, saisissant un pistolet qui l'étreignait encore, vise au front mon père en criant « Caramba !» Le coup passa si près que le chapeau tomba et que le cheval fit un écart en arrière. « Donne-lui tout de même à boire, » dit mon père.
Merci beaucoup Jacques Béhaize.
Merci à vous aussi.
Fin de cette rencontre de Dany Le Gras avec Jacques Béhaize. À voix nue. Réalisation Delphine Lemaire, prise de son Nicolas Mathias, coordination Claire Poinsignon. A voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.